m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes. Parce que la hyène, c'est un animal dont on parle jamais, alors que c'est un animal qui peut être très important. Parce que moi, je trouve qu'être ami avec une hyène, souvent, c'est plus important qu'être ami avec des vrais amis. Elle vous protège. Si jamais il y a du danger, moi, je suis avec une hyène.
Qui n'aime pas les bêtes, n'aime pas les gens. Libre Radio, la radio antispéciste. www.libradio.org.
Voilà, donc nous sommes toujours en direct depuis le studio 99 en compagnie d'Audrey. Audrey est la présidente de Interaction, l'association suisse pour les intersexes. Alors revenons justement au contenu de cette association, à sa posture, à ses dessins, aux enjeux qui ont cours là. On le disait, parmi les personnes que vous souhaitez informer, eh bien il y a les parents, les adultes. Effectivement, ce site leur est également consacré.
Oui.
Voudrais-tu nous en dire quelques mots ? Effectivement, les adultes, alors ceux qui sont confrontés à la naissance d'un être intersexe sont évidemment directement touchés. Et puis, il y a également les parents, amis des parents, etc. etc.
Oui. Bon, en fait, les opérations, elles sont faites souvent sur des enfants qui sont en très jeune âge. Souvent, c'est même à quelques mois. Et en fait, donc du coup, c'est les parents qui sont les grands preneurs de la décision et qui sont les premiers en fait touchés par la naissance d'un enfant qui est intersexué. Mmh. C'est les premiers qui sont confrontés au discours pathologisant des médecins. C'est les premiers qui créent ce tabou, qui vont pas le dire à la famille, qui vont pas le dire à l'enfant, qui sont les premiers qui vont voir aussi les désarrois, les questionnements, les peurs, les traumatismes de l'enfant. Et donc du coup, c'est important de les soutenir eux aussi. Mes parents, personnellement, ils ont dit à mon médecin, dès le début, j'aimerais bien rencontrer des parents d'enfants intersexes, voilà. Qu'ils soient opérés, pas opérés, enfin, c'était même pas la question, c'était des enfants, des parents. Et on a toujours dit, c'est pas possible.
Tiens.
Et les parents de Déborah, qui avaient le même médecin, ont aussi posé la même question, alors que les opérations se sont faites dans le même hôpital, par le même chirurgien, à la même période, ça s'est pas fait. Et donc,
ça s'est pas fait, c'est-à-dire
Il n'y a jamais eu un partage de numéros, de contacts, de mise en contact, d'informations. Vous êtes les seuls. On ne connaît pas d'autres personnes qui sont intersexuées. On n'opère pas d'autres personnes. C'est un cas sur un million. Votre fille est un cas super rare.
C'est comme ça qu'on l'explique, en disant la rareté extrême de
la situation. La rareté extrême, oui. On imaginait que j'étais la seule de Suisse, quoi. Enfin, vraiment.
D'accord. En réalité, est-ce qu'on dénombre, sais-tu si un organisme ou vous-même dénombrez d'une certaine manière, la population intersexe et le cercle, le premier cercle.
C'est très difficile, en fait.
D'accord.
Parce que déjà, dans la notion intersexe, selon ce qu'on comprend dans le terme intersexe, ça change.
Oui, bien sûr. Ça élargira ou restreindra.
Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, un intersexe, c'est seulement si ça se voit de l'extérieur.
D'accord.
Il y a d'autres personnes qui vont dire, s'il y a des chromosomes XY, XX ou n'importe, c'est aussi une variation. Ou dans les hormones, Donc c'est déjà là, il y a une difficulté.
Ouais.
Ensuite, on ne voit pas toutes les variations du développement à la naissance. Beaucoup, on les découvre après. Donc, et aussi souvent, on arrive à dénombrer le nombre d'opérations qui ont été faites sur les enfants intersexués, parce que c'est l'AI qui les paie. Mais après, c'est difficile. Donc moi, je pense qu'il faudrait peut-être regarder combien de traitements hormonaux substitutifs sont donnés à des jeunes adultes. Ça pourrait déjà être une approche pour savoir combien de personnes intersexuées. Mais donc, du coup, c'est vraiment difficile de dénombrer.
Oui, je comprends.
On dit qu'il y a 40 naissances d'enfants intersexués par année en Suisse. À mon avis, c'est 40 qu'on voit dès la naissance, tout de suite, où il y a vraiment un questionnement. Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un garçon? Quand on regarde entre ses jambes.
Ouais, d'accord. Donc ça, c'est vraiment le chiffre plancher. Et 40 naissances, ça veut dire 40 familles également. Donc ça veut dire que...
si et par année, il y a beaucoup de personnes.
Exactement, voilà. Si on voulait être sincère et en tout cas réaliste, ça fait quand même du monde, je veux dire. Et puis voilà. Comment est-ce que vous trouvez justement des ressources, des pairs, que ce soit en Suisse ou ailleurs, en France voisine ou dans d'autres pays? Est-ce que d'autres associations similaires sont recensées, existent-elles et avec lesquelles vous travaillez?
Alors, j'ai eu de la chance d'être d'être accepté à la première rencontre d'activistes intersexués à Bruxelles en octobre, je crois début octobre, fin septembre 2017. Donc il n'y a pas très longtemps. Et là, l'association, c'est encore une idée. Parce que l'association est très nouvelle. Mmh. Donc on savait qu'on voulait la lancer le 26 octobre, mais on ne savait pas encore à quel point il y avait un réel besoin. Et quand je suis allée à Bruxelles, c'était organisé par l'OI, Organisation Internationale des Intersexes, OI Europe, et aussi par IGLIU, qui est une organisation LGBTI. Mmh. Et là, j'ai rencontré des activistes intersexués jeunes de Russie, d'Allemagne, de France, de plein de pays différents, et qui ont vraiment créé un réseau. Donc on a des pairs, donc on travaille en fait, on a tous les mois un meeting avec des intersexués jeunes, vraiment la jeunesse intersexe du monde. Il y a des personnes autant d'Australie que des États-Unis que d'Europe. On travaille aussi main dans la main avec le CIA, collectif intersexe et allié, en France. On a aussi créé ou on participe au réseau RIFI, qui est un réseau en fait de partage de documents et d'informations entre la Suisse, la France et la Belgique. Voilà. Et on va bientôt être membre officiel de l'OI Europe. Donc ça, c'est aussi un pair.
D'accord. Et si on voulait agrandir la famille, peut-on dire que dans le réseau LGBTIQ, les intersexes ont leur place et là aussi sont présents?
Bien sûr.
Bien sûr, oui.
Alors, rajouter le « i » à l'acronyme LGBTI, c'est pas dans la vision de toutes les personnes intersexuées.
D'accord.
Donc, même dans les personnes intersexuées, il y a, on peut dire, deux ou trois mouvements. Il y a il y a le mouvement pathologisant qui voit en fait les opérations comme une chance, comme l'accès à la binarité, à cette divine binarité. Aussi l'accès... Et voilà, donc c'est le premier mouvement. Dans le deuxième mouvement, on va parler plutôt de personnes qui sont... qui voient ça comme non pathologique, et soit qui voient vraiment l'aspect seulement intersexe, donc les opérations, il faut qu'on arrête les mutilations, les violences, les tortures qui sont faites sur ces enfants tous les jours dans les hôpitaux européens, ou alors est-ce que ou alors on se rapproche de nouveau de cette idée de LGBTI, mmh. et on essaie de créer une communauté où toutes les variations, tout le spectre en fait du genre et du sexe sont représentés.
Je comprends.
Et en fait, souvent, les personnes intersexuées ont un parcours de trans, parce que le sexe qui leur est assigné à la naissance, sans aucun doute, parce que de l'extérieur, ils ressemblent totalement à une fille ou à un garçon, mais en fait, quand ils vont grandir, on va remarquer en fait, qu'ils sont intersexués, et donc ils vont avoir un parcours de trans, parce que c'est pas le sexe qui est assigné, et en plus, ils sont intersexes. Et donc, du coup, c'est important d'avoir des réseaux, en fait, autant avec les trans qu'avec... voilà. Et les violences en fait qui sont faites, donc l'homophobie ou la transphobie, c'est des violences qui sont aussi en fait qui sur les intersexes.
Ouais.
Les opérations sont dans le simple but de pouvoir avoir une relation qui est hétérosexuelle à l'âge adulte. Et la transphobie, ben tout corps qui ne ressemble pas au corps typique d'un homme ou d'une femme, donc corps, je ne parle pas que des organes génitaux, hein, je parle aussi des seins, de la poitrine. Si on voit un corps nu, on doit savoir tout de suite que c'est une fille ou un garçon. Et si on ne sait pas tout de suite, ben, ce n'est pas bien et il faut qu'on opère. Et donc du coup, c'est aussi de la transphobie.
Ouais, d'accord. Revenons-en à l'actualité de l'association. Quelles en sont les revendications, quels en sont les combats, les luttes et l'actualité, puisqu'effectivement, sur le site internet, on en rappelle tout de suite l'adresse d'ailleurs, www.inter-action-suisse.ch, eh bien, il est question de cette interpellation déposée au Conseil national par l'association.
Voilà, donc c'est un allié en fait qui a écrit son travail de bachelor sur la question intersexe et la question trans, et qui est aussi très actif dans la politique genevoise. Il a participé à un concours politique ou un jeu politique suisse, honnêtement, je ne sais plus vraiment quoi, avec Rebecca Ruiz. Mmh. Et il a eu la bonne idée, en fait, de demander aux personnes concernées qu'est-ce qu'elles avaient besoin et comment ils pouvaient nous aider dans le cadre de son travail politique pour faire en sorte que ça change, que le statu quo, il change.
D'accord.
Donc, on s'est très vite rendu compte que mettre une loi dans la Constitution ou dans un code de loi, en fait, pour interdire les opérations, ça va être compliqué en Suisse. Mmh. Donc, on est, en fait, là, on a avec la motion, on a tendu une perche en fait au Parlement pour qu'il se pose la question sur la question intersexe. Comment est-ce qu'on peut faire pour faciliter la vie et l'intégration des personnes intersexuées dans la Suisse et voilà.
D'accord. Alors, et selon vous, alors, de quoi part-on ? Quelle est la situation selon toi actuellement ? Où est-ce qu'on en est actuellement du point de vue intersexe ? Et vers quoi allons-nous ? Selon toi, la dynamique est-elle plutôt positive ? Est-ce qu'on est dans une phase de régression ? C'est compliqué parce qu'on est entouré par un monde un petit peu compliqué, complexe. Et je me demandais, voilà, selon toi, où est-ce qu'on en est et vers quoi allons-nous ?
Alors, on est dans un... Alors, c'est la merde, en fait, où on en est maintenant. Il y a les opérations, qui est vraiment, je pense, le numéro un des choses à changer.
Ouais.
Il faut... Là, quand un enfant naît intersexe, il y a certains médecins qui vont dire aux parents, c'est une malédiction, on est là pour le normaliser, pour le corriger, on est là, vous inquiétez pas, il va grandir bien, personne va savoir, etc., etc., même pas lui. Donc, vraiment, le but numéro un de l'association et aussi le problème numéro un, c'est ces opérations qui sont vraiment régulières et qui sont vraiment intrusives. Et c'est pas, en fait, que cette opération, elle est problématique au moment T, donc à l'enfance, où on va lui créer un vagin, on va lui réduire son clitoris, on va lui créer n'importe quoi.
Ouais.
C'est aussi après parce que sûr. Dans la vie sexuelle, ces opérations, ben, elles peuvent ne pas fonctionner, elles peuvent avoir des irritations, elles peuvent avoir... Enfin, il y a des... Tout au long de la vie, en fait, on est confronté à cette opération qui n'a pas été consentie par des différents services médicaux et on doit les réexpliquer. Donc, c'est vraiment important de les changer et que quand cette opération est faite, si cette opération est faite, que la personne concernée soit consentante, mais aussi que son consentement soit éclairé. Donc, qu'il ne soit pas que basé sur les idées des médecins qui vont leur dire « Ah, si tu veux avoir une relation sexuelle, il faut qu'on t'opère. » Mais non, parce qu'il y a plein d'autres façons aussi d'avoir une relation pénétrative, et il y a d'autres orifices aussi.
Bien sûr. Là, il faudrait des équipes multidisciplinaires, effectivement, c'est composées ça. Non seulement de
médecins... Non seulement de médecins, mais aussi de personnes concernées. Exactement. Parce que c'est ça aussi avant l'invisibilisation. C'est que les personnes concernées ne sont pas demandées associées. Et ne sont pas accessibles.
Ouais.
Et que toutes les questions et tous les... C'est fait sur, en fait, sur...
Sur un
avis médical.
Exactement, qui est biaisé et qui, voilà.
Et qui n'est même pas vraiment médical, puisque... Pour que ce soit médical, il faut que ce soit un problème de santé. Alors
absolument.
Que là,
c'est
pas le cas.
Sortir de l'invisibilisation, je pense que là, c'est quelque chose d'extrêmement majeur. Est-ce que ça, c'est extrêmement critique, extrêmement difficile ?
Moi, je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux.
D'accord.
Alors, bien sûr que c'est difficile, c'est critique, etc. C'est pas quelque chose qui est non seulement facile d'accès pour les personnes non concernées, ou même pour les personnes concernées, mais aussi ça pose des problèmes, parce que si une fois une personne, enfin moi par exemple, je suis complètement out, mon visage n'est pas anonyme, mon nom est connu, enfin je ne me cache pas, bon, ça pose quand même des problèmes, est-ce qu'on va avoir des problèmes pour trouver du job, est-ce que pour...
Ouais, c'est la question qui arrive.
Voilà, et donc c'est difficile, mais les réseaux sociaux ça permet quand même à un plus large public d'avoir accès à des informations, de créer une communauté, de pouvoir parler, communiquer, envoyer des messages. Quand la page Facebook a été créée d'interaction, au bout de 5 heures, 6 heures, on a eu le premier message d'une personne concernée, super long, super douloureux, et on voyait en fait qu'il était dans ce stade où il avait juste besoin de dire... qui il était, et puis ouais, de rencontrer des personnes qui ont vécu les mêmes choses.
Tout à fait. D'ailleurs, ça me permet de dire aux personnes qui sont ici au studio que si elles souhaitent intervenir, poser une question, eh bien, c'est possible, des micros sont à disposition. Peut-on parler de violence intersectionnelle pour la communauté intersexe et dans ce cadre de violence-là, de violence sociétale, quels sont les écueils majeurs auxquels vous êtes confrontés, tu l'as dit, et c'était le sens de ma question. Il y a le travail, mais il n'y a pas que ça. J'imagine que le sport, c'est peut-être compliqué. Mm-hmm. Que... Voilà.
Alors... Mais on a regardé le cas avec la coureuse Caster Semenya, qui a une insensibilité aux androgènes. Et quand on s'est rendu compte qu'elle avait des chromosomes XY, donc la coureuse sud-africaine.
Oui. Il y a eu une... disqualification.
Il y a une disqualification, ouais, c'est ça. Et on l'a dit, ah non, en fait, c'est un hermaphrodite, c'est un homme. Est-ce qu'il, on ne sait pas, peut courir avec les femmes. Son temps record à la course, c'est incroyable, c'est pas normal. C'est pas une femme qui peut courir aussi vite. Hein. Mmh. Il y a aussi des violences qui sont intersectionnelles, dans le sens avec... Je peux moins en parler, parce que je ne suis pas concernée. Mais dans la communauté musulmane, par exemple, dans la communauté... l'idée que dans les sociétés qui sont vraiment patriarcales, mmh, où il y a vraiment des hommes, des femmes et chacun a son rôle, une personne qui entre les deux, on la met où, on fait comment, on la... si je me trompe pas, en Suisse ou en Europe ou dans la communauté occidentale, on a plus tendance à faire des femmes parce que it's easier to make a hole than a pole, donc c'est plus facile de faire un trou qu'un bâton. On va comprendre ce qu'on veut dire. Hein. Par contre, dans d'autres communautés où c'est où on n'aime pas les filles, en fait, où être une fille, c'est mauvais pour la famille, ça coûte cher parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, on va plutôt tendance à faire un garçon.
C'est compliqué.
C'est compliqué. Ouais,
c'est compliqué, effectivement.
Mais en fait, par rapport au job, en général, les personnes intersexuées aujourd'hui n'ont pas forcément de problème particulier à trouver du travail parce qu'elles sont invisibilisées et parce que quand on nous voit dans la rue, on ne sait pas que cette personne-là est intersexe. Il y a une transphobie en fait en Suisse encore tout partout. Quand on ne sait pas si une personne est intersexe ou non, est une fille ou un garçon par exemple, ça va être plus difficile en fait de la recruter parce qu'on va être là, c'est quand même un peu une mauvaise image. Ça peut avoir des répercussions sur son salaire. Mais comme on est invisibilisé, on n'est pas touché par ça, heureusement. Après, quand on est out, j'ai pas encore fait l'expérience, heureusement, mais je peux m'imaginer que ça va être aussi plus difficile.
Ouais, tout à fait. Audrey, je te remercie beaucoup. Encore quelques questions, et puis donc si autour de nous les questions surgissent, n'hésitez pas. Il y a quelques questions triviales avec lesquelles on va terminer, qui sont de quoi l'association a besoin, qu'est-ce que vous recherchez, est-ce que c'est plutôt des occasions de contre-informer, mieux, est-ce qu'il y a des lieux dans lesquels vous aimeriez justement aller en particulier, ça peut aller des écoles ou des ludothèques jusqu'au centre culturel alternatif, où j'imagine que là aussi c'est pas évident pour les gens non plus, pour les personnes intersexes d'aller. Il y aurait encore beaucoup de questions, mais on reviendra là-dessus peut-être une autre fois. Mais l'accès à la culture, l'accès à plein d'espaces comme ça, est-ce que là aussi est-il problématique ? Mais avant ça, j'aurais voulu savoir, socialement, la reconnaissance. Tu sais, la communauté gay ici à Genève, il y a le gay pour les citer, revendique le fait que l'on recense les violences qui sont faites aux gays. Parce que ça permettrait justement d'intervenir d'une certaine manière, etc., etc. Qu'en est-il concernant les intersexes ? C'est là aussi extrêmement compliqué parce qu'en fait, toutes ces violences que tu as énoncées qui émaillent l'enfance d'une personne intersexe ne sont même pas reconnues comme des violences. Elles sont en fait là pour rétablir une situation qui serait celle de l'ordre naturel des choses.
C'est ça.
Alors comment est-ce qu'on fait pour à un moment... Parce que selon moi et j'imagine selon plein de personnes, là, ce sont des violences qui sont faites.
Ah oui,
c'est
oui.
Des mutilations.
Non, mais on parle de mutilations. Voilà. Il y a l'ONU qui... Enfin, il y a le... Pardon, je me suis un petit peu pris le pied. Il y a l'ONU qui parle contre ces opérations. La Suisse ou la France, depuis 2015, ont été 4 fois, je crois, interpellées par l'ONU pour la torture, pour discrimination sur les femmes, pour l'égalité. On parle de mutilation génitale sur personnes intersexuées, parce que quand on réduit un clitoris chez une fille dans un pays africain, par exemple, on va dire que c'est pas normal, que c'est culturel, etc. Je suis tout à fait d'accord. Hein. non, mais pas qu'on va me dire. Mais après, quand on le fait dans le cadre, quand on réduit le clitoris d'une jeune fille ou d'un jeune enfant, en Europe, parce que son clitoris est trop long, au final, ça revient au même. C'est pour des questions culturelles et sociales. Ouais. Et donc, du coup, on parle de mutilation génitale sur des personnes intersexuées.
D'accord. Donc, à un moment donné, quand même, ça apparaît, ces mots-là apparaissent.
Ah oui, ils apparaissent, oui.
Mais insuffisamment, clairement encore.
Et... Insuffisamment, et, et surtout, les médecins, enfin, la médecine ne change pas assez rapidement. Ils écoutent ça et ils font la même chose.
Comment tu l'expliques ça ? Comment tu expliques que ce corps médical fasse bloc de cette manière-là, j'ai l'impression, de manière monolithique et ne veuille pas prendre en considération les expériences et les témoignages des personnes qui ont traversé, tout simplement, les premières concernées de Dieu ?
Mais parce que, à mon avis, mais honnêtement, c'est un peu difficile, hein, je ne suis pas un médecin, je ne peux pas parler pour eux. Mais quand on est médecin et qu'on peut créer un pénis et qu'on peut créer un vagin et qu'on peut faire ça, on se dit, ce que je vais faire, ça va être bien, ça va être beau. Et en fait, on a une espèce de petit kiff égocentrique où on se dit, je suis un peu comme Dieu et je peux changer ce corps et je peux changer l'identité de cet enfant. Mais en fait, la clinique de l'intersexuation, elle a été créée dans les années 50, je sais pas si tu sais ça, par John Money, qui est un sexologue et psychologue de la Nouvelle-Zélande, qui a travaillé à l'hôpital John Hopkins aux États-Unis. Et en fait, il y avait deux jumeaux qui sont allés pour avoir une circoncision. Chose qui arrive quand même assez régulièrement, mais il y a eu un petit dérapage chez l'un de ces deux nourrissons de 8 mois, enfin bébé de 8 mois, et à 22 mois, on a coupé en fait le pénis d'un de ces deux enfants, celui chez qui ça a dérapé, et on en a créé une fille. Et le médecin John Money, en fait, c'était un exercice, en fait, un cas pratique pour lui de montrer en fait que sa théorie, que tout enfant peut devenir une fille ou un garçon si son corps ressemble à l'un ou à l'autre et qu'on ne le lui dit pas et qu'on l'éduque dans le genre qui lui a été créé ou voilà.
Une forme de génisme.
Voilà. Et donc du coup, cet enfant est devenu Brenda, a grandi comme une fille, a été éduqué en tant que tel. On lui a jamais dit, on lui a tout caché. Il allait chez les médecins, comme nous, mais pour une maladie, pour quelque chose, on ne sait pas trop. Enfin voilà, bref, il y allait. Et ce John Money, comme tout ce qui vient des États-Unis est très écouté, ben il avait beaucoup en fait d'impact. Et cette clinique de l'intersexuation, après, elle a été partagée dans tous les hôpitaux mondiaux ou européens du moins. Et il disait que cet enfant, Brenda, vivait très bien, en fait, dans son corps de femme, ne se posait pas de questions identitaires, ne le savait pas, tout allait très bien. Un jour, ça a leaké, et la mère a dit à Brenda qu'en fait, c'était un garçon, à la base, et lui a expliqué tout ça. Et ça l'a tellement traumatisée, parce qu'il avait des dépressions, il avait des questions de genre, il avait plein de problèmes. Et à 34 ans, il s'est suicidé. Mais pendant ces 34 ans, tous les médecins, et ce que John Money disait, c'est que c'était top. Enfin, son opération s'est très bien passée et que ça légitimait en fait d'opérer des enfants intersexués pour leur donner la binarité et qu'ils n'allaient pas savoir et qu'ils allaient bien grandir et qu'il n'y aurait pas de traumatisme et.
Donc un déni complet de la
réalité. Un déni complet. Et en fait, cette clinique de l'intersexuation, une fois que Brenda s'est suicidée, ça n'a pas changé. Tout simplement, ça n'a pas changé.
Ouais.
Et c'était juste le protocole médical. Quand on a un enfant qui, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, on opère et voilà.
Ok, ouais, c'est extrêmement emblématique de ce qu'on traverse comme crise en ce moment.
Mais avant les années 50, on n'opérait pas ces enfants-là. Avant les années 50, c'était juste un enfant comme un autre en fait.
Ouais.
Et puis, ben voilà, ça a changé avec cette fabuleuse circoncision.
Ok. Revenons à l'association. Donc, effectivement, on l'a dit, parmi vos rôles, c'est effectivement d'accompagner, de regrouper les personnes qui ont traversé cette épreuve et qui continuent de la traverser. C'est de regrouper les parents, les alliés, les amis des parents, les amis tout court. Et c'est effectivement d'impacter la société.
Et aussi, on aimerait bien, un de nos buts, ce serait d'avoir un impact aussi dans les cursus universitaires en médecine, comme on le fait à l'UNIL, pouvoir aller parler aux futurs médecins, aux futures personnes qui vont être confrontées en fait à ces bébés qui sont ni l'un ni l'autre ou l'un et l'autre, qu'on je sais pas comment dire, et que eux sachent comment en fait aborder le sujet et dire ah mais votre enfant il a 10 doigts, il a 10 orteils, il va très bien, il va grandir très bien, il y a aucun problème. et on regardera à un moment venu, quoi.
Et alors, comment faire? L'idée pour vous, c'est d'aller, de vous rendre dans des, certains lieux pour expliquer, de faire des stands. Bon, il y a le site internet qui est déjà un outil.
Il y a le site internet. On va bientôt, je pense dans le courant février, sortir des vidéos YouTube. Donc la première, il y en a quelques-unes qui ont été tournées, mais il faut qu'on les monte, etc., etc. Enfin, tu connais un peu le problème. Oui. Mais ça va sortir, en tout cas en février, la première. En début mars, il y aura une. On va avoir des numéros de téléphone, un numéro de téléphone pour les parents, un numéro de téléphone pour les personnes concernées, où ils peuvent nous appeler pendant des horaires prédéfinis, anonymement ou pas, c'est égal, pour nous raconter un peu leurs problèmes, leurs questions, on peut les rencontrer.
D'accord.
On aimerait bien aussi avoir des projections du film dans lequel on a participé avec France 2, qui va sortir dans le courant de l'année. Enfin, tout ce qu'on peut faire en fait pour participer à la visibilisation des personnes intersexes, on va le faire.
Ouais, très bien, très bien. Donc,
visibilisation et aussi arrêt des opérations. Hein.
Absolument, ouais, ça c'est vraiment le truc urgent. Ça veut dire qu'on peut lancer d'ores et déjà l'appel si des personnes souhaitent vous inviter pour tout simplement que vous parliez, pour organiser des tables rondes, pour organiser des projections courant 2018, eh bien, c'est possible.
Ah oui, bien sûr.
D'accord, très bien. On vous contacte comment? Via le site internet, tout
via
simplement.
Via le site internet, Facebook.
Ouais.
Voilà.
Donc le site internet, voudrais-tu encore rappeler l'adresse
et alors, la c'est www.inter-action-suisse.ch.
Ouais.
Et la page Facebook, c'est Interaction.
Très bien. Dis-moi, de quoi auriez-vous besoin par ailleurs dans cette association-là? Plutôt des alliés qui vous rejoignent, parce qu'il faut que, bah, voilà, il faut faire le travail. Également des sous pour participer
alors,
à des campagnes.
Alors, il nous faut des sous.
Des sous, ouais.
On a un compte qui va s'ouvrir. Enfin, la lettre a été envoyée, donc du coup, on va avoir un compte tout bientôt. Donc, on va informer tout ça sur notre page Facebook et notre page web. On va participer aux 20 km de Lausanne.
Mmh.
On va chercher des sponsors qui peuvent nous donner, si on court les 20 km, une certaine somme pour l'association.
Ouais.
Je pense que là, avoir de l'argent, c'est une des premières choses à avoir. Parce que sans argent, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Deuxièmement, ben, autant de personnes concernées que possible, parce que le plus on est, le plus on peut faire, en fait.
Absolument.
L'union fait la force.
Exactement, tout à fait. Audrey, je te remercie beaucoup. Je me tourne vers les personnes qui sont parmi nous. Si, question ou pas question? Pour cette fois-ci, non.
Il y a une question?
Prends un micro. Prends un micro. Et on est obligé.
Oui, au niveau des sages-femmes, je voulais savoir un petit peu comment elles accueillent cette histoire d'intersexe, de sexualité, quel est le travail, la reconnaissance. Puis après, comment vous arrivez à relever, aimer, apprécier ce corps, à le remettre, à le rendre à sa vivance. C'est un long travail.
Ouais. Merci beaucoup pour les questions. Je pense que les sages-femmes, honnêtement, je ne sais pas comment elles le prennent, je ne sais pas comment elles ont été formées, malheureusement. Moi, j'ai voulu moi-même faire sage-femme. J'ai d'abord commencé l'école de culture générale pour faire sage-femme, pour combler ce manque, en fait. Par contre, j'ai absolument aucune idée comment elles ont été formées et comment elles le vivent, et comment elles informent les parents. Mais je pense qu'au même titre que les médecins, elles doivent aussi être informées, formées, d'une façon non pathologisante, rassurante, et pas qu'elle fasse « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais maintenant ?» quand elle voit l'enfant. Donc, au même titre que des médecins. Mais je ne peux pas vous informer beaucoup plus que ça. Et comment on a de nouveau accès, en fait, à l'intimité, à notre corps? Ben, ça, c'est un cheminement qui se fait tout au long de sa vie. Je pense qu'une fois qu'on arrête d'aller visiter des médecins hebdomadairement, ou mensuellement, ou même annuellement, et puis qu'on nous mesure certaines parties de notre corps, gentiment, on peut de nouveau avoir accès. Après, avec beaucoup d'amour, avec une famille qui nous aime, avec des amis proches, avec un compagnon, avec une compagne. Voilà. Par contre, il faut savoir que même si on commence à accepter son corps et qu'on commence à revivre, en fait, et à réacquérir cette intimité qu'on a le droit et qui nous a été enlevée, les opérations et les mutilations qu'on a subies reviennent constamment. Et donc, du coup, constamment, c'est un travail de réappréciation de son corps. Par exemple, Ben, en fait, avec cette opération, il y a beaucoup de risques d'avoir des mycoses, d'avoir des infections urinaires, d'avoir des saignements, d'avoir des irritations, d'avoir des douleurs, d'avoir que ça ne rentre pas, que ça sort. Enfin, il y a plein de problèmes. Et donc, du coup, à chaque fois que ça arrive, il faut réexpliquer à son partenaire pourquoi, comment. Et après, aussi avec soi, il faut qu'on soit. Faut qu'on arrive à respirer et à se dire bon, ben, ma foi, c'est ma vie, c'est mon corps, c'est comme ça qu'on me l'a fait. Et il faut que j'apprenne à l'aimer de nouveau. Mais je pense qu'avec beaucoup de bienveillance, avec des amis proches, avec des... Ouais, avec l'amour et puis avec le respect, et puis peut-être en faisant du yoga, qui sait, ben, ça peut aider à avoir de nouveau accès à cette...
À se réapproprier.
À se réapproprier son corps.
Ouais. Merci beaucoup, Audrey. Donc, Audrey, tu es la présidente de l'association Interaction. L'association des intersections suisses, on le rappelle, www.inter-action-suisse.ch. Merci d'être venu jusqu'à
Merci
nous.
À toi.
Et nous, on va se tenir au courant et puis, bien entendu, vous proposer d'autres relais et tout ce qu'on pourra faire pour, évidemment, en tant qu'allié, essayer d'aller dans votre sens, quoi qu'il en soit.
L'union fait la force.
Exactement. Courage et à bientôt.
Merci beaucoup. À une prochaine.
À une prochaine. Alors voilà, on va faire une petite pause musicale, assez brève finalement, puisque notre invité suivant est déjà sur place. Et bienvenue, Roland, à toi. Nous allons parler humanitaire avec l'association Aide en Raid, une association humanitaire suisse. Ce sera pour dans quelques minutes. Avant cela, une petite pause musicale. Et puis, chère auditrice, auditeur, je te le rappelle, le direct, c'est jusqu'à 17h. Et puis, si tu souhaites intervenir par contumace, eh bien, c'est à l'adresse suivante, info@libradio.org ou alors via la page Facebook de l'émission La Comète à la Banane. Petite pause.